Cette émission inédite autour de la langue arabe et plus généralement des langues perdues entre parents et enfants a été enregistrée il y a quelques semaines. Nous vous la proposons ce soir avec un petit ajout à la fin qui revient sur une actualité plus récente, les déclarations du président Macron sur l'apprentissage de l'arabe à l'école. Mais le sujet, la difficile transmission des langues d'origine dans notre pays, reste intemporel. Il concerne beaucoup plus de monde qu'on ne le pense, vous allez l'entendre.
France Culture, Être et Savoir, Louise Touret.
Il y a quelques jours se jouait une énième polémique sur l'apprentissage de l'arabe à l'école. Peu enseigné, même si le projet serait de l'enseigner plus, sujette à des débats politiques qui dépassent totalement les questions éducatives, l'arabe est aussi une langue que des millions d'enfants français n'ont pas vraiment apprise ou oubliée, alors même que c'était leur langue maternelle. Comment peut-on perdre sa langue ? C'est le sujet du livre du journaliste Nabil Wakim, une enquête à la première personne très drôle, dans laquelle l'auteur interroge son histoire personnelle, celle de l'enseignement de l'arabe et aussi la manière dont les enfants et petits-enfants de l'immigration maghrébine, entre autres, perçoivent cette langue. Il est certain que cette histoire de langue perdue n'est pas totalement nouvelle. Combien d'enfants de Polonais, d'Italiens, combien de Bretons, de Provençaux, de Béarnais ont aussi oublié leur première langue au cours du XXe siècle? Et ce récit sur l'arabe m'a aussi renvoyé à des tonnes d'histoires dans ma famille, mes belles familles, à tous ces gens qui comprenaient sans savoir parler et qui n'ont rien pu transmettre à leurs propres enfants, parfois avec regret, parfois sans. Alors ce soir, nous allons essayer de nous expliquer cette passion française pour le monolinguisme, le rôle de l'école au passé et aussi au présent, car cela change, et notre relation trouble à nos langues. Enfin, nous parlerons de ce qui se joue aussi en termes d'invention langagière, qui mêle langues et cultures du côté des jeunesses de France. Bonjour Nabil Wakim.
Bonjour.
Alors on entend Najat Al-Saghira, j'espère que je prononce pas trop mal son nom, c'est une chanteuse égyptienne. Vous m'avez suggéré de passer cette chanson, enfin je vous ai demandé ce que vous aimeriez entendre. Vous comprenez les paroles ?
Non, très mal. J'ai fait comme tout le monde en écoutant cette chanson. J'ai cherché les paroles sur Internet et ensuite j'ai utilisé des outils de traduction pour essayer d'en comprendre le sens. J'ai compris que c'était une chanson d'amour, mais il ne faut pas m'en demander beaucoup plus.
Alors, moi, je crois qu'on l'entend, que c'est une chanson d'amour, même quand on comprend, même quand on ne cherche pas la traduction. Vous êtes journaliste au Monde. Vous êtes l'auteur, je l'ai dit en introduction, de L'Arabe pour tous. Pourquoi ma langue est taboue ? Et ça vient d'être publié au Seuil, c'est paru le 1er octobre 2020. On va parler de la perte de ces langues maternelles, avec d'autres invités. Alain Boissineau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ancien directeur de l'enseignement scolaire, directeur général, c'est ce qu'on appelle la DGESCO, et ancien recteur d'académie. Vous êtes également historien. Et avec nous, deux linguistes, Aurore Vincenti, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes autrice notamment des Mots du bitume, de Rabelais au rappeur, petit dictionnaire de la langue de la rue. Ça a été publié aux éditions Le Robert en 2017. Cette langue de la rue, elle se nourrit de beaucoup, beaucoup de langues étrangères,
oui,
avec beaucoup d'inventions, mais ça, c'est pas trop une nouveauté.
Non, et d'ailleurs, entre 2017, date de publication, et aujourd'hui, il y a encore plein de choses qui sont apparues.
Voilà, la constante, c'est qu'il y a tout le temps,
oui, c'est créatif,
des nouveautés. Un sujet que vous étudiez également, Violaine Bigot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence à l'Université Sorbonne-Nouvelle-Paris 3, vous êtes également linguiste. Vous avez co-dirigé avec Aude Bretagnier et Marie Tévasseur vers le plurilinguisme, 20 ans après, édition des Archives contemporaines en 2014. Vous avez étudié cette question des langues à l'école, de la manière des langues d'origine à l'école et de la manière dont elles étaient considérées. On va quand même voir que ça évolue. Alors, en lisant l'ouvrage de Nabil Wakim, en lisant aussi Le français est à nous de Maria Candéa et Laëlia Véron, je me suis dit que la langue, finalement, c'était un capital dont la société décidait de la valeur, alors plutôt du côté des élites et peut-être un petit peu du côté de la politique, même si les linguistes disent que c'est toujours l'usage qui décide, de la manière dont la langue évolue. Toutes les langues ne valent pas la même chose, suivant les endroits et les époques. Et ce capital linguistique, il est perçu comme fort pour la maîtrise du français scolaire, de l'anglais, du chinois peut-être aujourd'hui, et vraiment faible pour les langues des immigrations africaines. C'est le cas pour l'arabe. Alors, c'est peut-être un peu en train de changer, mais en tout cas, ça a été le cas pour vous, Nabil Waqim, et vous le dites dans votre livre. Finalement, pour les parents, locuteurs des langues arabes originaires du Maghreb ou du Liban comme vos parents, ça paraissait pas tellement intéressant de transmettre leur langue.
Oui, c'est vrai que quand on parle de l'enseignement de l'arabe en France, on a immédiatement en tête les polémiques, les questions de stéréotypes, le racisme, les amalgames qui sont faits avec les discours religieux, etc. Mais c'est vrai qu'on voit moins souvent le fait que dans un certain nombre de familles, consciemment ou inconsciemment, et peut-être le plus souvent inconsciemment, le fait de miser sur l'arabe n'est pas jugé comme une stratégie scolaire ou une stratégie professionnelle évidente de la part des parents, avec l'idée de se dire il vaut peut-être mieux apprendre d'autres choses. Quand cette langue n'est pas valorisée dans l'espace public, n'est pas valorisée par les responsables politiques, par le monde culturel aussi, par la culture populaire, etc., évidemment on se dit si je veux que mes enfants réussissent, c'est pas nécessairement par là qu'il faut aller. Et ça, c'est quelque chose que j'ai retrouvé tout au long de mon enquête pour le livre. C'est un peu l'histoire de ma famille, évidemment, mais c'est aussi celle de beaucoup de gens. Dans le livre, je raconte que les anciennes ministres Najat Vallaud-Belkacem ou Myriam El Khomri, toutes les deux, ont fait allemand première langue et anglais deuxième langue, et un peu de latin et de grec peut-être, alors qu'elles venaient pas spécialement de milieux favorisés. On voit bien que pour celles et ceux qui veulent se sortir un peu de cette condition d'immigré, miser sur l'arabe n'apparaît pas comme la tactique la plus évidente.
Parce que il y a des tactiques scolaires en termes d'apprentissage des langues. Apprendre l'allemand en première langue, ça a longtemps été une tactique scolaire pour être dans des bonnes classes, entre guillemets. Maintenant, on sait que les classes se composent un peu autrement au collège. Et l'apprentissage de l'arabe a une très longue histoire en France. Cela fait longtemps qu'on apprend cette langue dans notre pays, Alain Boissineau.
C'est tout à fait extraordinaire quand on regarde l'histoire de France. Il y a en France une très grande tradition d'enseignement de l'arabe, si on remonte à l'origine. En fait, dès l'époque carolingienne, et ensuite pendant toute la fin du Moyen Âge, il y a des gens qui se passionnent pour l'arabe. Alors, non pas tellement, comme on le dit souvent, à cause des croisades et de ce qui se passe à l'Est, mais beaucoup plus à cause des contacts qui se développent avec l'Andalousie et donc ce qui se passe à l'Ouest. Et il y a des traductions de l'arabe, il y a une très grande curiosité pour la philosophie, la science arabe. Tout ça a joué un rôle tout à fait impressionnant. On a créé au Collège de France, sous François Ier, très tôt, une chaire d'arabe. On a créé, au moment de la Révolution, ce qui est devenu l'Institut des langues orientales. Il y a eu pendant très longtemps en France un grand développement, une grande curiosité pour l'enseignement de l'arabe, qui a d'ailleurs redoublé au XIXe siècle, à l'époque de la conquête de l'Algérie, à l'époque de la politique française au Moyen-Orient. Il fallait des arabisants et c'était très valorisé. Et puis, ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que ça bascule après la décolonisation et au moment, en effet, où l'arabe est perçu non plus comme la langue d'une civilisation extérieure qui fascine, qui attire, mais comme la langue des immigrés. Et il y a une dévalorisation sociale à ce moment-là de l'arabe qui se crée et qui fait que ça n'est plus perçu comme valorisant pour des petits Français, par exemple.
Alors, c'est social. Est-ce qu'on joue là avec un peu plus de racisme supplémentaire, ce qui s'est joué avec les langues des régions, c'est-à-dire des langues qui, socialement, étaient celles des paysans, des pauvres, gens qui n'avaient pas de pouvoir.
Bon, ça n'est pas exactement la même chose, mais ça n'est pas en effet sans lien. En particulier, à partir du moment où on perçoit l'arabe, c'est toute l'ambiguïté, à mon avis, du débat, comme une langue des origines. Ça a été la logique, par exemple, des ELCO, qui se sont développés dans les dernières années du XXe siècle. Il s'agissait, dans le prolongement du rapport Berck de 1985, de donner aux petits-enfants issus de l'immigration une image valorisante et experte de leur langue d'origine, et donc développer dès l'école primaire, par exemple, l'enseignement de l'arabe, mais aussi un certain nombre d'autres enseignements linguistiques. Autrement dit, on abordait à ce moment-là l'enseignement de la langue par le biais du retour à l'origine. Et ça, c'est un petit peu la même chose dans le cas, en effet, des langues régionales. Les langues régionales, on a essayé, j'allais dire presque en termes de marketing linguistique, de les promouvoir en termes de réconciliation avec la culture originelle. Ce qui peut être assez porteur à une époque où on a volontiers la nostalgie du temps passé, où on rêve d'un retour aux sources, d'un retour à la nature, mais ce qui, en revanche, fait que ces langues, du coup, ne sont pas perçues comme porteuses d'avenir. Permettez-moi de citer un ancien ministre de l'Éducation nationale qui avait son franc-parler, je pense à Claude Allègre, et qui avait eu une formule, je trouve tout à fait révélatrice, en disant, mais enfin, en France, on a besoin de former des informaticiens parlant anglais et pas des bergers parlant basque ou occitan. Vous voyez, mais la perception qu'on pouvait avoir, effectivement,
ce que je trouve incroyable,
en termes de passéisme,
c'est d'opposer la maîtrise de l'occitan à celle de l'anglais. On voit bien que dans certaines parties du monde, les gens sont volontiers polyglottes. France, on a cette histoire de monolinguisme.
Alors, absolument, en France, on n'est pas, pour toutes sortes de raisons historiques, naturellement ouvert au plurilinguisme. Alors, il y a de nombreuses raisons à ça. La nostalgie de l'époque où le français était perçu comme la langue universelle qui était la meilleure langue du monde, hein, ce qui évidemment n'a aucune signification, mais ce qui fait l'objet de nombreux discours au XVIIIe siècle, par exemple. La tradition jacobine depuis la Révolution française, ce qui fait que on considère que la langue est un outil absolument essentiel de l'unité nationale et par conséquent la diversification linguistique est perçue comme allant dans le sens du fédéralisme et comme sapant l'unité nationale. Et puis toujours dans la tradition révolutionnaire jacobine, il y a cette idée française que la diversité risque de mettre à mal l'égalité. Et en France, très souvent, pour des raisons politiques, idéologiques, on croit davantage à l'égalité qu'à la diversité. Et du coup, on arrive à cette situation, en effet, un peu absurde, où tous les enfants de France, ou à peu près, font anglais en langue vivante 1, et puis, pour l'immense majorité d'entre eux, espagnol en langue vivante 2, quelques originaux font encore un petit peu d'allemand, et toutes les autres langues sont à moins de 1% des élèves. Pour l'arabe, par exemple, c'est 0,2% hein, des élèves dans le système éducatif. Et donc, on a une espèce de réduction de la diversité linguistique à laquelle on consent trop facilement, parce que pour ma part, je la déplore évidemment, à la fois par jacobinisme et par croyance un peu naïve que toute diversité menace l'égalité et l'unité nationale.
On salue tous les élèves qui apprennent l'allemand. J'ai pratiqué cette langue pendant de nombreuses années. C'est pas facile. Violaine Bigot, les linguistes s'intéressent beaucoup à cette question du plurilinguisme, la manière dont aussi l'école reçoit la question du plurilinguisme chez ses élèves. Vous me disiez que cette vision, elle avait tout de même évolué ces dernières décennies.
Oui, alors c'est difficile d'évaluer exactement les proportions dans lesquelles elle a évolué, mais on avait conduit une enquête dans le cadre d'un projet financé par la région Pays de Loire dans les années 2010, au début des années 2010. Et si je souligne ça, c'est parce que ça nous dit quelque chose aussi des intentions politiques, le fait de promouvoir et de financer un projet de recherche sur la pluralité des langues à l'école et sur la diversité des répertoires des enfants nous dit quelque chose déjà d'une orientation politique qui s'intéresse et qui veut donner à l'école les moyens de valoriser la diversité linguistique. Donc dans le cadre de cette recherche, de ce projet, on a mené une enquête auprès des enseignants pour savoir comment ils percevaient le fait d'avoir des élèves avec une grande variété dans leur répertoire. Et on se rendait compte qu'en fait, sur le terrain, les enseignants, quand on les interroge, sont ouverts et n'ont pas cette vision qui a prévalu pendant longtemps, qui consiste à penser qu'un élève bilingue serait « handicapé », entre guillemets. Ça, c'est une représentation qui a largement été balayée. Donc, de manière générale, ils regardent la diversité linguistique de manière plutôt positive, en se disant que c'est plutôt une chance pour un enfant d'être bilingue. Mais, malheureusement, le bilinguisme est perçu de manière différente, suivant qu'il s'agit d'un bilinguisme avec une langue valorisée ou avec une langue, on va dire, d'émigration postcoloniale. Ça, c'est quelque chose qu'avait montré déjà aussi Cyril Trimaille et Véronique Land dans une enquête auprès d'enseignants, où on les avait fait parler du bilinguisme de leurs élèves, et là, c'était très clair. qu'il y avait vraiment bilinguisme et bilinguisme. Il y avait un bon bilinguisme et un bilinguisme handicapant. Donc oui, les représentations évoluent, c'est-à-dire que le bilinguisme n'est plus vu comme un handicap. Malheureusement, il y a encore du travail à faire pour que tous les bilinguismes soient vus de manière positive.
Voilà, c'est l'égalité. C'est l'égalité, mais il y en a qui sont plus égaux que d'autres, pour reprendre une formule célèbre.
Oui, et encore. Oui, c'est l'égalité, oui, peut-être. Parce qu'il me semble qu'il faudrait rajouter quelque chose à ce que disait M. Boissineau tout à l'heure, qui a parlé de la question de l'unité du pays, la nation qui se ferait autour d'une langue unique et d'une intolérance relative à la diversité héritée du jacobinisme. Mais il y a aussi, dans ce lien entre nation et langue, il y a un rapport à la question de la pureté. La pureté de la nation, elle serait liée à la pureté de la langue. Et ça, c'est quelque chose qui rend très difficile l'ouverture à la diversité linguistique. Pour aller jusqu'au bout de cette ouverture à la diversité linguistique, il faut accepter l'idée qu'il n'y a pas de langue pure et que toute pratique langagière est la bienvenue. Pour ça, il y a du chemin à faire dans l'éducation nationale, parce que l'école, c'est le lieu de la norme, c'est le lieu de l'écrit. Et donc, c'est un lieu où on a tendance à se resserrer sur une seule variété acceptée. Donc, c'est une seule langue, le français, et une seule variété du français.
Hé, hey, tonton ! Les cabas, sont trop lourds !
Allez, monte dans la voiture,
j'ai... Regarde, Bill, elle s'en va !
Monte, Bill, elle monte. Hé, Atmen ! Allez, monte. Allez, on y va. Hé. Hey. Hé, mes Karim, tonton du bled.
Tonton du bled.
Pour tous les Miss Mourt, le Bladi. 504 breaks chargés. Allez, montez les neveux. Juste un instant que je mette sur le toit la grosse malle bleue. Nombreux comme une équipe de foot, voiture à ras du sol. On est les derniers locataires qui décollent. Le plein de gasoil et de gazous pour pas flancher. Bilel, va pisser. Le temps que je fasse mon petit marché. Direction le port, toujours le pied sur le plancher. Jusqu'à Marseille avec la voiture un peu penchée. Plus 24 heures de bateau, je sais c'est pas un cadeau. Mais qu'est-ce que je vais kiffer sur la place Gido? À Béjaïa City, du haut de ma montagne. Avant de rentrer Feudal, je fais un petit détour par Warlan. Vu qu'à Paris j'ai dévalisé tout à Tati, je vais rassasier tout le village, même les plus petits. Du tissu et des bijoux pour les jeunes mariés, et des jouets en pagaille pour les nouveau-nés. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. Je suis sur la plage à Boulemat avec mon zinc et son derbouka dans la main.
113. Imitation coca. Tonton du bled, une chanson pleine de références à l'Algérie. On entendait parler du selecto, on entendait quelques mots d'arabe ou de dialecte, un père aussi qui répond en arabe à son fils, avec là beaucoup d'humour dans cette chanson. En même temps, ce que vous racontez, Nabil Hakim, c'est la honte. La honte quand les parents s'adressent en arabe à la sortie de l'école à leurs enfants. La honte de ne pas maîtriser cette langue aussi. Ce mot, il revient énormément dans votre livre.
Oui, en fait, de deux manières différentes. La première, c'est effectivement cette honte que moi j'avais gamin, enfin en tout cas ce rejet que j'avais de la langue arabe gamin, que j'ai réentendu chez beaucoup de mes interlocuteurs en écrivant ce livre, de gens qui disaient voilà, moi j'avais honte, je voulais pas que ma mère me parle l'arabe dans le métro ou dans le bus, je voulais pas, surtout pas qu'elle s'exprime à la réunion de parents d'élèves, surtout la honte face à l'institution, de dire ben voilà, de toute façon, j'ai une de mes interlocutrices qui m'a dit mais à force d'entendre de toute façon cette langue moquée, un peu caricaturé, bon ben évidemment tu te dis c'est pas ça que j'ai envie d'entendre. Et moi mon adolescence c'était ça, moi je voulais être français, parler français, faire tout bien français, et ça m'intéressait pas d'apprendre l'arabe, et les faibles efforts que mes parents ont fait pour essayer de me le transmettre évidemment n'ont pas suffi. Et puis plus tard dans ma vie, je me suis rendu compte que j'avais perdu quelque chose, et qu'en fait cette langue qui est ma langue maternelle, puisque quand je suis né on m'a parlé en arabe, j'ai grandi dans un pays arabe jusqu'à mes 4 ans, ben en fait je l'avais perdu, j'étais pas capable de la retrouver. Et en fait, à ce moment-là, j'ai eu honte, et j'ai toujours honte aujourd'hui, d'ailleurs, quand je vais au Liban ou quand je vais dans le monde arabe, d'être pas capable de soutenir une conversation plus profonde que, voilà, je vais ici en taxi ou où se trouvent les toilettes. Mais c'est vrai que je pense que ce double phénomène de honte, il existe chez beaucoup d'enfants d'immigrés, et effectivement pas que pour la langue arabe, mais c'est particulièrement vrai, je pense, pour les langues, on en parlait juste auparavant, pour les langues qui sont les plus dévalorisées. Et effectivement, les langues d'immigration, certaines des langues d'outre-mer aussi, oui, effectivement, l'arabe, le wolof, voilà, ce sont des langues qui souvent ne sont pas considérées comme des vraies langues. D'ailleurs, beaucoup de locuteurs arabophones en France disent « mais moi, je ne parle pas l'arabe, je parle le dialecte marocain du village de mon père, etc. » Sauf qu'ils parlent quand même des langues. Mais on a tellement intériorisé l'idée que ces dialectes étaient un peu des sous-langues qu'en fait, on ne les travaille pas, on ne les valorise pas à leur juste mesure.
Cette honte, c'est un mot très fort. On a également parlé de pureté. Ça dit quand même quelque chose de notre rapport assez fou aux Français et puis aussi aux langues étrangères. Aurore Vincenti, ça passe par plein de choses, y compris la honte des accents, d'ailleurs. C'est ce qu'on appelle la glottophobie. Est-ce que c'est quelque chose que vous identifiez? Et est-ce que cette manière de parler des jeunes en s'appropriant des expressions de plusieurs langues, c'est une manière de retourner le stigmate?
Bon, déjà, première chose, on parle en effet de honte, on a entendu Violaine Bigot nous parler de pureté tout à l'heure de la langue. Le discours sur la langue, c'est un discours politique. Quand on en vient à considérer qu'une langue est moins noble qu'une autre, je pense par exemple au fait d'être bilingue en arabe ou bilingue en anglais. Vous employiez tout à l'heure le mot de capital. La langue est un capital. Donc la langue du capitalisme, elle a plus de valeur parce qu'elle rentre dans on peut capitaliser avec l'anglais, même si il y a toujours en France un discours assez étonnant de peur vis-à-vis de tout ce qui peut venir de l'extérieur, toute langue qui pourrait venir de l'extérieur. Donc, ça veut dire que même vis-à-vis de l'anglais, on va entendre des gens qu'on va appeler puristes dire « attention, ça menace la fameuse pureté de notre langue française, de laisser entrer trop d'anglais, langue de l'Empire, la position dominante, ou trop d'arabe ». Là, ce serait plutôt du côté du vocabulaire, on entendra du vocabulaire de la contagion, on entendra parler même de grands remplacements, ce qui est quand même abject. Donc, vous voyez, on a ce discours sur tout ce qui pourrait venir de l'extérieur, et c'est pour ça que c'est un sujet éminemment politique. C'est vrai qu'il y a une discrimination aussi par l'accent, et c'est, en fait, tous les signes qui nous font sortir du français parisien, blanc et bourgeois, vous voyez, c'est quand même une élite, on parle de langue de référence, de français de référence ou de français standard, et c'est quand même un français minoritaire en termes de nombre, tout simplement, alors qu'il y a des Français. Alors, vous parlez de passion du monolinguisme en France tout à l'heure. On a ça, en effet, en France. C'est à la fois très ancien et très récent, puisque, si mes souvenirs sont bons, le fait de dire que le français est la langue de la République, ça date de 92. Et pas avant, hein, 1992. Vous voyez, on oscille, on navigue entre la célébration de nos langues régionales qui sont riches, qu'on a envie de revendiquer, et « ah non, attention, il n'y a qu'un français qui est juste », et tout ce qui sort de notre français de référence blanc-bourgeois parisien, eh bien, c'est un français qui fait faute, qui porte trop de traces de sa marginalité. Donc on est aussi assez ambigu dans le discours sur la question du français et des Français.
Et cette ambiguïté, cette relation aux Français peut rendre difficile l'apprentissage des langues étrangères ou de sa langue d'origine, puisque Nabil Wakim, vous évoquez l'apprentissage de cette langue d'origine, cette langue maternelle en fait que vous voulez réapprendre. Eh bien, c'était le sujet d'une fiction que vous citez d'ailleurs, une fiction d'Ayam Zaitoun. Je vous propose d'en écouter un tout petit extrait.
Papa, tu sais le poème que Papa Guédo a écrit à ma naissance? J'aimerais bien pouvoir le lire un jour.
Ah, je sais pas où il est. Je vais essayer de le retrouver, d'accord? C'était un poète très connu, ton grand-père.
Je sais bien.
Si tu veux, de temps en temps, tu me laisses tes enfants et je leur apprends l'arabe.
C'est gentil, papa. On se dit ça et puis... Regarde tous les deux. On reprend nos vieilles habitudes, on parle français.
En tout cas, tu vas voir. Tu vas avoir la chance pour ce travail, crois-moi.
Inch'Allah.
Inch'Allah.
Alors, deux éléments très proches de votre ouvrage, Nabil Wakim. On repasse tout le temps au français. Alors vous, votre mère vous dit, mais c'est parce que vous ne comprenez rien, en fait, quand elle vous parle... Quand elle vous parle arabe, c'est assez drôle. Et à propos de l'accent, elle dit bon bah voilà, on peut parler des langues avec un accent. Regarde Jane Birkin. Puis l'autre point commun, c'est ce désir de faire passer cette langue à votre propre enfant.
Oui, absolument. C'est-à-dire qu'il y a dans ce rapport-là, en tout cas pour ma génération, c'est-à-dire que moi j'étais peut-être un enfant issu de l'immigration, maintenant je suis un parent issu de l'immigration, et en fait, dans ce changement-là, il y a nécessairement des questions qui se posent. Un temps, j'ai fait comme d'autres de mes amis, j'ai misé sur le fait que mes parents allaient soudainement se mettre à parler l'arabe avec ma fille pour lui transmettre cette langue qu'ils ne m'ont pas transmise à moi, puis je me suis assez vite rendu compte que ça marchait pas comme ça, et je me suis dit que si moi je voulais transmettre l'arabe à ma fille, ben il fallait qu'en fait j'ai quelque chose à lui transmettre. Et là je me suis rendu compte que transmettre une langue qu'on ne parle pas, c'était très difficile, et que c'était beaucoup plus simple pour moi de lui parler en anglais ou en espagnol qu'en arabe. Et elle-même s'en est bien rendu compte, elle a 5 ans, mais elle est tout à fait capable de comprendre qu'en fait j'ai un problème avec cette langue et que j'ai du mal à la parler.
Mais pourquoi vous voulez que votre fille parle une langue que vous parlez pas ?
En fait, c'est pas tant que je voudrais qu'elle la parle, au fond. C'est-à-dire, je lui demande pas d'être bilingue français-arabe. D'ailleurs, je lui demande rien du tout à part de ranger ses Playmobil. Mais
c'est déjà compliqué.
Ce qui est déjà une épreuve difficile. Mais non, j'aimerais qu'elle sache que cette langue fait partie de son héritage culturel, tout comme la nourriture libanaise, tout comme les chansons qu'on peut écouter le dimanche après-midi. Et ben en fait tout ça, ça fait partie de sa langue, et que ces sonorités là, ces sons là, cette prononciation là peut-être, et ben ça fait aussi partie de son monde, et que son monde, et ben la France c'est formidable, mais que le monde ne s'arrête pas aux frontières de la France, qu'il est vaste, compliqué, périlleux, mais très intéressant, et qu'à dans ce monde là, et ben il y a toute cette diversité et cette richesse de langues. Et parmi lesquels, eh bien, il y a cette langue, la langue arabe, qui est inscrite dans son histoire, dans mon histoire, dans l'histoire de mes parents, de mes grands-parents. Et ça, j'ai envie que ça fasse partie de sa vie.
Mais il y a un autre problème, en tout cas une autre question, et Ayam Zaitoun la soulève également dans son podcast, c'est celle de l'assignation.
Toi, t'es d'origine libanaise, c'est ça ?
Égyptienne, mais c'est très proche.
Je me disais bien. Mais t'as pas du tout l'accent, hein ?
L'accent ?
L'accent arabe. Tu pourrais avoir une petite intonation, tu vois ? Enfin, un timbre un peu oriental.
Mais je suis née ici. Ma mère est française et j'ai toujours vécu ici.
Oui, oui. Mais t'as vraiment un phrasé très français. Pas du tout banlieue, je veux dire. Limite, tu pourrais faire un peu bourgeoise.
Bah, ça doit être parce que je suis arrière-petite-fille du maréchal Foch.
Oh, c'est drôle, ça.
Le pire, c'est que c'est vrai. Ça se voit pas forcément avec ma tête d'arabe, alors j'aime bien dire ça.
Ok, Leïla. Mais si tu veux bien, là, on va plutôt jouer la carte égyptienne et bilingue. Ok ? Même libanaise, je pense que c'est mieux.
Ok, Leïla, donc en tant que personne qui ressemble à une arabe et qui porte un prénom vu comme un prénom arabe, on est aussi censé incarner un certain nombre de caractéristiques, un accent, peut-être un accent populaire, une certaine maîtrise de certains codes. Et ça, Nabil Wakim, vous le racontez aussi pour vous, mais d'une manière un peu différente. C'est-à-dire que au bout d'un moment, sans même vous en apercevoir, vous ne voyez même plus d'où vous venez. C'est-à-dire que vous êtes dans des collectifs antiracistes, vous militez avec des lycéens, et vous ne parlez pas du tout comme... un arabe de France ou quelqu'un d'une quelconque origine, vous êtes perdu de vue.
Oui, effectivement, tout ça est probablement très inconscient, mais c'est vrai que dans toute une partie de ma vie, et je me suis rendu compte en écrivant ce livre que je n'étais pas le seul à agir de la sorte, probablement pour jouer au maximum le jeu de l'intégration, eh ben, j'ai fait comme tous les autres français ou qui avaient l'air français ou plus français que moi, au point de ne jamais revendiquer en fait cette arabité, cette part de moi d'arabe, ni cette langue, ni cette culture. Et j'ai mis très longtemps avant de l'accepter, y compris dans ma vie de journaliste. Ça fait 15 ans que je suis journaliste au Monde. Il m'a fallu des années avant de faire une sorte de coming out et de dire aux gens, oui, mais en fait, je suis arabe. Et puis, en fait, malgré tout, c'est vrai que je m'appelle Nabil Wakim. J'ai une barbe, j'ai les cheveux noirs. En fait, il y a assez peu de doutes sur le fait que j'ai une tête d'arabe. Mais je pense que dans cet exercice-là de vouloir être le bon arabe, en fait, le parfait petit intégré, eh ben, y a aussi ce risque-là d'y perdre une partie de son identité, de sa culture. Moi, ça ne m'est pas arrivé, mais je connais des gens qui ont changé de prénom, par exemple, qui est quand même un acte assez fort, et de dire, ben voilà, plutôt que de m'appeler Farid, je vais m'appeler Frédéric, et je vais faire inscrire ça dans l'état civil parce que ça va acter le fait que je suis vraiment bien intégré. Sauf que, à un moment donné, on se rend compte que on a beau jouer avec toutes les règles, faire tous les efforts, et ben à la fin, pour une partie des gens, peut-être pas tous, mais y compris une partie des institutions, et ben on reste un arabe. Et parce que les discriminations, elles existent, les discriminations à l'emploi, au logement, pour rentrer en boîte de nuit, comme on l'a souvent dit, mais de manière très sérieuse, elles continuent d'exister, et elles sont très fortes, et elles sont très fortes pour les gens qui ont des noms à consonance arabe, une diction qui ressemble à ce qu'on imagine être des stéréotypes rattachés à l'arabe. Et ça, c'est un vrai sujet important dont il faudrait s'emparer, et qui, quand on parle de tensions dans la société française ou de besoin d'apaisement, c'est peut-être à ces sujets-là qu'il faudrait s'attaquer en priorité.
Mais on parle de transmission dans cette émission et dans le livre, vous parlez du prénom, des prénoms. Là, vous venez d'évoquer des gens qui changent de prénom. Il y a aussi le choix des prénoms pour les gens d'origine arabe, maghrébine, qui peuvent choisir des prénoms un peu mixtes.
C'est un sujet de débat, notamment dans les couples mixtes. J'en ai vu un certain nombre en écrivant le livre et qui se posent la question. C'est-à-dire, un certain nombre disent « Bah oui, moi j'ai envie de transmettre cette part de mon héritage, de ma culture, mais d'un autre côté, je n'ai pas envie d'handicaper mon enfant. » Et de la même manière que sur l'enseignement de l'arabe, il y a un peu cette idée-là de dire « Bon, il faut quand même... » Tout le monde, tout parent se dit « J'ai envie de mettre mon enfant dans la meilleure situation possible pour qu'il ou elle réussisse dans la vie. » Et donc, voilà, là, il y a une difficulté qui est d'arriver à jongler entre cette envie qu'ont un certain nombre de parents de se dire « Bah voilà, j'ai envie de transmettre cette culture-là. » Et puis la réalité de la société française qui n'est pas toujours une réalité qui est celle qu'on aimerait voir, en tout cas que moi j'aimerais voir, une réalité qui accepte le multiculturalisme et le plurilinguisme.
Alain Boissineau, finalement, on doit se conformer à une norme, et on a parlé de normes avec Violaine Bigot, qui semble extrêmement pesante, même si les choses évoluent.
Oui, les choses évoluent, mais c'est vrai que la notion de pureté qui a été évoquée tout à l'heure est essentielle. Hein. Elle joue en France comme un frein à l'étude des langues. D'une part, en effet, parce qu'il y a cette tendance à défendre le français contre le plurilinguisme et contre les autres langues qui sont perçues comme une menace et comme un facteur d'hybridation et donc d'impureté. Et puis d'autre part, parce que dans la pédagogie des langues en France, pendant très longtemps, on a recherché aussi une espèce de pureté linguistique. On enseignait les langues étrangères.
C'est l'anglais de Shakespeare.
Voilà, en demandant aux enfants une perfection phonétique et une perfection grammaticale qui, en fait, était hors d'atteinte pour eux. Et ça n'est que dans les deux dernières décennies, en gros, que sous l'influence du cadre européen de référence pour les langues, la pédagogie des langues, qui a quand même beaucoup évolué, hein, le système éducatif depuis quelque temps, a renoncé à cette espèce d'obligation de perfection qui était très inhibante pour les enfants, et a admis, au fond, que quand on apprend une langue, eh bien l'important c'est de se débrouiller, c'est de communiquer tant bien que mal, et puis on progressera peu à peu, on se perfectionnera, mais de toute façon aucun locuteur, et même aucun locuteur natif, n'atteint la perfection dans sa propre langue. Hein, il n'y a que dans la dictée de Pivot et dans quelques exercices de ce genre qu'on pourrait, un petit français pourrait être parfait dans le maniement de sa langue. Puis si vous me permettez très rapidement, je voudrais faire une deuxième remarque, parce que j'entends avec beaucoup de sympathie, bien sûr, le propos de Nabil Ouakim, et j'adhère complètement à cette idée que c'est une richesse extraordinaire pour lui, pour sa fille, de retrouver une très grande culture, en effet, d'origine. Mais puisqu'on débat en France en ce moment l'enseignement de l'arabe, il faut quand même dire que l'enjeu, c'est aussi de faire en sorte que toutes sortes de gens apprennent l'arabe, et pas simplement ceux pour qui c'est une tradition familiale. L'enjeu de la diversification linguistique en France, il est là aussi, c'est de faire en sorte que apprendre l'arabe, ça puisse être, pour un petit breton, un petit normand, un petit auvergnat, aussi intéressant que d'apprendre d'autres langues étrangères. L'intérêt pour les langues étrangères ne va pas forcément au même, il va aussi à l'autre. D'ailleurs, là encore, très brièvement, quand on regarde les langues qui ont prospéré dans le système éducatif français, c'était plutôt toujours des langues relativement distantes. L'allemand ne s'est jamais aussi bien porté dans le système éducatif français qu'après la guerre de 1870. Parce que l'allemand, c'était l'ennemi héréditaire. Et depuis que les Allemands sont devenus nos amis, ça intéresse beaucoup moins.
Ah, c'est pour ça qu'on parle pas très bien allemand, même si on.
Mais c'est pour ça, c'est surtout pour ça qu'on choisit moins d'étudier l'allemand. De la même façon, le russe se portait très bien en France avant la chute du mur. Depuis la chute du mur, c'est beaucoup moins intéressant d'apprendre le russe. Et les effectifs des russisans s'effondrent. C'est le chinois qui a pris la place. Parce que là, il reste les murailles de Chine, c'est quand même des gens un peu bizarres, etc. Et donc, la fascination pour l'autre continue à jouer. Donc, voilà, l'intérêt pour les langues, c'est quelque part
une dialectique. Il y a beaucoup de chinois en France.
C'est une dialectique entre l'autre et le même. Et l'arabe doit bénéficier de ça. C'est-à-dire la logique du même, la culture d'origine, plus ou moins réelle et plus ou moins attestée, ou quelquefois reconstruite, effectivement, mais aussi l'intérêt pour l'autre. Et de ce point de vue-là, ça devrait être une grande langue en France d'études sur le plan scolaire et universitaire, comme ça a été le cas à l'époque classique.
Donc les Chinois bizarres, rassurez-moi, c'était entre guillemets, mais il y a aussi beaucoup de Chinois en France.
Non, mais vous avez bien compris que je disais les choses avec beaucoup de guillemets, mais le Chinois se porte relativement mieux que le Russe, par exemple, dans le système éducatif français, et pas seulement dans le 13e arrondissement, parce que ça fascine un certain nombre de petits Français.
Il y a beaucoup d'argent en Chine aussi, donc je pense que là aussi, l'homme du capital, c'est intéressant de parler chinois, parce que pour des raisons économiques, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des investissements éventuellement dans cette grande partie du monde.
Oui, mais on peut dire la même chose de l'arabe.
Mais alors, justement, moi j'aimerais qu'on parle des influences aujourd'hui qui concernent plus les adolescents, les enfants même, des influences culturelles qui me semblent assez importantes. Je ne sais pas si ça ira jusqu'à apprendre d'autres langues, mais c'est très présent dans la culture juvénile, en premier lieu dans la musique et les textes de chansons. Et pour faire la transition, allez, je vous propose une toute petite pause musicale. Tu me mens beaucoup. Là, c'est clair, il me fait tomber. Je le vois, laisse tomber. C'est qu'il est frais, je vois flou. J'aime quand t'es là, c'est tout. J'ai dit oh. Français soit clair, en vrai. J'ai passé l'âge de jouer, j'ai dit. Toi et moi on se sait, yeah. N'en fais pas trop s'il te plaît. On perd déjà du temps à tester nos limites. Ma présence coûte cher, dis-moi quel est mon bénéfice. En moi tu pourrais voir nos projets, l'avenir. Mais nous brûler les ailes, il faudrait éviter, yeah. Aime-moi doudou, aime-moi doudou. Montre-le-moi doudou. T'es mimi, dis-le-moi doudou. Prouve-le-moi doudou. Tu me mens beaucoup. Les soirs venus, faut qu'on se mette à l'aise, ouais. Sinon laisse tomber. Tu peux chercher, elles n'ont pas le verre, yeah. Chérie, laisse tomber. Les soirs venus, faut qu'on se mette à l'aise, ouais. Sinon laisse tomber. Tu peux chercher, elles n'ont pas le verre, yeah. Chérie, laisse tomber. Les rageux nous pistent. Longue est la liste. Pour mériter ce qu'on veut. J'ai barré tous les dalles, maintenant à nous deux. Il est dans ma tête. J'ai le cœur à la fête. Aya Nakamura, l'artiste française la plus écoutée dans le monde en 2020. Aya Nakamura qui dit à son doudou, parle en français, sois clair. Alors beaucoup d'argot, d'expressions, des inventions autour de la syntaxe chez cet artiste et des emprunts à d'autres langues dans ses chansons, l'anglais, les langues africaines et puis aussi l'argot. Alors comment les cultures contemporaines juvéniles se nourrissent des langues étrangères et des langues de l'immigration, Aurore Vincenti?
Je pense qu'il y a, en effet, vous parlez de créativité, il y a aussi beaucoup de... c'est un art, hein, la musique, donc quand on écrit les paroles d'une chanson, on joue avec la langue, on se permet d'être créatif et on va chercher, à la fois pour la musique et dans les parlers de la rue, dans des jeunes entre eux, des moins jeunes entre eux aussi, le plaisir de passer notamment d'une langue à l'autre. Ça, ce que je note, on parle d'alternance codique en linguistique.
Ok, alternance codique.
Alternance codique, c'est-à-dire je suis en mesure, dans la même phrase, de parler un français dit de référence et puis d'intégrer des mots en arabe, par exemple, ou alors en anglais. Et ça, je montre que déjà, j'aime bien m'exprimer dans plusieurs langues, qu'elles font partie de ma culture, de mon patrimoine. C'est ce que fait Aya Nakamura, par exemple, où elle intègre dans des phrases que vous êtes en mesure de comprendre certains mots qui, tout à coup, vont vous déconcerter, ou alors une syntaxe qui va vous bousculer un petit peu dans vos habitudes. Donc ce sont des pratiques culturelles, en fait. Quand on est, par exemple, on parle français et qu'on parle aussi un patois ou un dialecte, eh bien on va passer, on va intégrer des mots du patois dans son langage courant et ça va.
Vous m'aviez dit qu'il fallait dire langue régionale. Mes parents sont encore patois.
En privé, de vous à moi. En fait, on peut parler de patois, mais c'est pas pareil qu'une langue régionale.
D'accord.
Mais là, on va pas rentrer dans le débat.
D'accord. Aurore Vincenti, quelle langue infuse dans ces expressions utilisées principalement par les jeunes, mais pas seulement. De toute façon, ça finit toujours par arriver vers les plus vieux.
Les jeunes vieillissent.
Oui, à ce qui paraît. Quelle langue inspire aujourd'hui le langage des rues?
Alors, l'arabe est très présent. Ça, je ne peux pas le nier. Prenez un mot comme « seum » qui maintenant est connu de tous et de toutes. C'est un mot qui vient de l'arabe, qui a été francisé, c'est un joli emprunt au même titre que le mot « chiffre » ou le mot « algèbre » qui est beaucoup plus ancien et là qui date du Moyen-Âge. Mais bon, voilà, « seum », donc le « seum », c'est la rage, c'est la haine et ça vient du poison en arabe. Bon, il y a l'arabe d'un côté, mais il y a aussi, par exemple, le romani. Qui est une langue qui donne beaucoup aux Français, et notamment aux parler des plus jeunes. Et dans le rap, on l'entend énormément.
Vous avez des exemples de mots?
Oui, tous les mots qui terminent en « ave », tous les verbes en « ave », « bicrave », « naturave ». Ça, c'est prendre une terminaison du romani pour la mettre sur un mot français pourri. Donc oui, mais ça, c'est de la création, c'est du jeu avec la langue. « Marave », je vais être marave, je vais te casser la gueule ou je vais te tuer. Et alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ce ne sont pas des calques. On ne va pas juste chercher un mot dans une langue étrangère pour l'intégrer en français. On va prendre un mot et on va l'adapter. Alors, on va, par exemple, pas adapter tout à fait la conjugaison. On va garder qu'une forme, on ne va pas conjuguer le mot comme il serait conjugué dans sa langue d'origine. Donc on s'adapte, on adapte aussi la prononciation. Voilà, ce sont des façons de jouer avec la langue qui sont très précieuses.
Et très facile en français, puisqu'on peut conjuguer tous les mots en faisant des verbes du premier groupe, voilà. En ajoutant « er ». On parle souvent de la facilité de la langue anglaise, mais nous aussi en français, on est très créatif. Et c'est ce que vous constatez, Violaine Bigot, en étudiant, là pour le coup, non pas l'oral, mais l'écrit. On a parlé des chroniques Facebook, alors c'est une forme plus ancienne. Maintenant, on est passé sur la plateforme Wattpad, et on disait que ce sont des jeunes filles qui écrivent un peu leur vie et qui sont très créatives.
Oui, ça c'est une recherche que j'ai menée avec Nadia Maillard de l'Université d'Angers, avec aussi Patricia Lambert de l'ENS, qu'on conduit depuis maintenant 5 ans, sachant que les chroniques ont même commencé avant Facebook sur Skyrock. C'est une pratique qui évolue au fur et à mesure qu'elle passe de réseau social en plateforme d'écriture, puisqu'on la retrouve aujourd'hui sur Wattpad. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que on voit donc c'est une écriture pléthorique. Il y a des centaines de chroniques qui sont donc des récits extrêmement longs, souvent jusqu'à 100-120 épisodes ou parties qui constituent le récit. Ces chroniques qui se déclinent en différents sous-genres. Hein. Il y a des chroniques du dîne qui racontent le retour vers la religion, mais il y a des chroniques des mariages rebeux-noirs. Il y a des chroniques qui racontent les mariages forcés. Enfin, il y a toute une grande diversité de récits qui se rattachent à ce genre. Et la manière dont les autrices de ces chroniques s'identifient est en général très fortement marquée d'un point de vue identitaire, c'est-à-dire que dans leur nom même, leur nom d'Internet, apparaissent leurs origines. Donc c'est algérienne du 93, marocaine du 92. Et la question des origines et des langues est omniprésente dans ces récits. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que on est là dans des pratiques qui sont alors à l'opposé de ce qu'on décrivait tout à l'heure quand on parlait d'unité, de pureté. On est dans des pratiques de mélange de langues, de jeux de traduction et de partage. Et ça, c'est les dernières études qu'on a faites. On se sont vraiment focalisées sur cette question de partager sa langue, enseigner sa langue à l'autre, alors pas du tout de manière magistrale, mais comment faire pour qu'une lectrice qui est d'origine maghrébine et qui lit ma chronique alors que moi je suis d'origine sénégalaise et que je mets du Wolof dans ma chronique, comment faire pour qu'elle puisse comprendre quand je fais un récit d'un dialogue avec ma mère? Parce que le récit du dialogue avec la maman, dans une chronique de sénégalaise, on va le faire pas en français, on va le faire tel qu'il s'est déroulé, c'est-à-dire dans un mélange où il y aura du Wolof, du français et peut-être autre chose.
Et le fait que le français qui est utilisé dans ces chroniques, pour ce que j'en connais, pâtit parfois, ou pâtit, je ne sais pas, en tout cas ce qu'on voit c'est que l'orthographe est assez approximative, le passé simple peut être un petit peu maltraité. Comment vous regardez ça avec votre œil de linguiste, Violaine Bigot?
Bon, on n'a pas focalisé notre attention sur, par exemple, la question du passé simple, qui serait passionnante, hein, puisque, comme vous le dites, effectivement, il y a beaucoup de passé simple dans ces récits, mais conjugués de manière très particulière, puisqu'en fait, comme ce sont des récits à la première personne, la forme qui est utilisée, c'est celle qu'elle connaît, c'est-à-dire c'est la forme de la troisième personne. Donc, ça donne des « je me leva »,« je marcha », etc. Bon, on n'a pas focalisé notre attention sur ça parce que nous, avec une posture de linguiste, on n'est pas dans une approche normative. Donc notre question n'est pas quels écarts à la norme, mais quelle créativité dans la manière d'utiliser la langue. Et sur l'orthographe, il y a un travail extraordinaire à faire. Alors, il y a un travail à faire, enfin qui est en cours, hein, sur la question de leurs pratiques orthographiques, mais aussi sur leur discours sur l'orthographe, parce qu'elles en parlent énormément. Et notamment depuis que ces récits sont arrivés sur la plateforme Wattpad, qui, tant que ces récits étaient sur Facebook, c'était à l'intérieur d'une communauté. Donc, elles étaient dans une sorte d'entre-soi, ne venaient lire des chroniques que les filles qui avaient envie de lire des chroniques. Maintenant qu'elles sont sur Wattpad, elles se retrouvent en contact direct avec d'autres types d'auteurs amateurs qui ont un rapport beaucoup plus normatif à la langue et qui viennent dans leur communauté et font des commentaires un peu acerbes. Et là, moi, je trouve qu'elles ont une capacité à répondre aux agressions qui est extraordinaire. Donc, une qui, dans les analyses qu'on a faites récemment, on avait un échange où il y avait donc des lectrices d'autres types de récits qui étaient venus avec des discours un peu choqués sur l'orthographe qu'elles utilisaient. Puis il y en a une qui... Elle la laisse parler dans des commentaires, hein, puisque ces récits sont accompagnés de beaucoup de commentaires. Pardon, il faut expliquer que c'est un usage aussi très particulier du récit, c'est-à-dire qu'il y a le récit et puis il y a tous les commentaires qui s'y agrègent de toutes les lectrices. Donc une lectrice vient avec des critiques très acerbes sur l'orthographe qui est utilisée. Puis là, vous en avez une qui répond mais en fait, on écrit comme on veut. Hein. Et j'ai trouvé que c'était super. Et une autre qui faisait des corrections et l'autre qui répond juste « Ok, prof de français ». C'est extrêmement concis, direct, dense et radical. Et voilà, laissez-nous tranquilles, on écrit comme on veut, la langue nous appartient. Comme
ça rappelle une chanson aussi de Weshden, on n'a pas le temps de passer l'extrait, où elle se fait reprendre par une professeure de français. Weshden, c'est une chanteuse très jeune, hein, qu'à l'âge d'être au lycée. Et je vous laisse écouter ce titre, Anissa, et regarder le clip pour voir l'échange. Ce que je comprends, c'est qu'il y a quelque chose qui change dans le fait de revendiquer ses origines, de partager aussi son savoir, Nabil Wakim. Ça m'a rappelé aussi une vignette d'une bande dessinée de Riyad Satouf. Ce sont les cahiers d'Esther et le frère d'Esther cherche ses origines et il dit « Mais moi, j'ai rien à dire, je suis pas d'origine portugaise, je suis pas d'origine maghrébine. Dans la cour de récré, je pèse plus rien. » Et son père se moque de lui. « Tu peux dire que t'es breton, qu'est Navo. » Ça a beaucoup changé depuis votre génération, non?
Merci de insister sur mon grand âge.
Je crois que vous êtes plus jeune que moi.
Oui, je dois dire que ce que, en tout cas, j'ai eu l'impression de toucher du doigt avec le livre, c'est qu'effectivement, les gens plutôt trentenaires, quarantenaires de ma génération, qui sont donc qui commencent à être parents, qui ont des enfants en bas âge ou des enfants ados, eux-mêmes se débattent avec cette question-là, et que pour les générations suivantes, il y a une appropriation qui est un peu différente, parce que souvent avec un rapport au pays d'origine justement qui est assez lointain, avec une dimension aussi de choix, de dire je prends ce que j'ai envie de prendre de cette culture-là, ça peut être des aspects religieux, ça peut être des aspects gastronomiques, ça peut être des tenues vestimentaires, imaginaire, des morceaux de langue, et je peux les mélanger avec autre chose parce que j'aime bien écouter de la K-pop coréenne et manger des trucs indiens, et donc je vais mélanger tout ça avec mon Maroc d'origine, Maroc que de toute façon je ne connais pas parce que mes parents ne sont pas comme mes grands-parents, ils n'y vont pas tous les étés, ils m'amènent pas 2 mois là-bas, passer 2 mois avec la famille, et donc du coup le lien avec le pays d'origine se distend, et du coup il y a peut-être une dimension de choix qui est plus importante dans ce que se permettent de faire des générations plus jeunes. J'ai quand même l'impression que c'est aussi différent de manière évidente suivant où on habite sur le territoire, c'est-à-dire et suivant la diversité du paysage qu'on a autour de soi. Si on a effectivement, comme dans les cahiers d'Esther, on est dans un lycée parisien ou de région parisienne et on a une grande diversité d'origine autour de soi, ben effectivement c'est cool d'être d'origine. Il y a peut-être des endroits où encore aujourd'hui en France, et ben c'est pas du tout cool d'être d'origine et où du coup on le revendique beaucoup moins pour essayer de se fondre dans la masse. Donc je pense qu'il y a des réalités aussi qui sont de ce point de vue-là assez contrastées.
Vous pensez que le tabou dont vous parlez, c'est quand même dans le titre de votre ouvrage, Nabil Hakim, peut tomber, le tabou sur la langue arabe ?
Comme tous les tabous, il faut des années et des années de travail collectif. En tout cas, je pense que ce qui peut changer, c'est la nature de la conversation. Enfin, en tout cas, moi, je suis un grand optimiste. J'ai beaucoup d'espoir là-dedans. C'est-à-dire, je pense que la conversation qu'on a aujourd'hui, la conversation qu'il y a autour de l'enseignement de la langue arabe, et comme on l'a vu tous ensemble, c'est évidemment une conversation sur l'identité et la langue française et sur comment elle peut s'enrichir de ces différentes cultures et devenir aussi plus forte, plus ouverte. Et je crois que, oui, de ce point de vue-là, bien sûr que les choses vont changer. En fait, elle change déjà. Elle change dans la vie parce que on l'a vu sur les nouvelles générations, on le voit sur le fait qu'il y ait des couples mixtes, on le voit, la société, elle évolue. Les responsables politiques, parfois, utilisent ces sujets-là de manière vulgaire et xénophobe parce qu'ils estiment qu'ils ont des gains politiques à court terme. Moi, je crois que ça n'empêche pas, sur le long terme, la société de changer et de briser ces tabous-là.
Finalement, 2 mois se sont écoulés entre l'enregistrement de cette émission et sa diffusion. Je suis retournée voir notre invité, Nabil Hakim, au journal Le Monde, où il travaille, pour lui poser quelques questions et puis revenir sur le sujet. Il faut dire qu'entre-temps, le président lui-même s'est adressé à la jeunesse. C'était le 4 décembre dernier qu'Emmanuel Macron répondait aux journalistes du média en ligne Brut. Il a parlé de l'importance des langues d'origine et en premier lieu de l'arabe. Je vous propose de le réécouter.
Quand vous connaissez l'arabe ou que votre famille parle l'arabe en France, c'est une chance pour la France. Ça a quelque chose à apporter à notre pays, dans la vie de tous les jours, pour connaître la littérature, pour l'enseigner à d'autres, pour pouvoir voyager, pour pouvoir commercer, pour rendre le pays plus fort. On apprend tous des langues étrangères. Et en quelque sorte, on a refoulé les langues étrangères de celles et ceux qui étaient issus d'autres pays ou qui appartenaient à des diasporas.
Et j'ai demandé à Nabil Hakim ce qu'il en avait pensé.
Ce qu'a dit Emmanuel Macron lors de son entretien à Brut est assez important, symboliquement, puisqu'il dit « lorsqu'un enfant parle arabe dans une famille, c'est une chance pour la France ». Et ça, c'est assez fort. Je ne crois pas qu'Emmanuel Macron l'avait formulé comme ça auparavant. Et c'est un vrai signal qui est envoyé pour dire « le bilinguisme, le plurilinguisme, le fait de parler l'arabe, c'est pas une mauvaise chose, c'est une bonne chose ». La difficulté, c'est comment ça se traduit ensuite concrètement, c'est-à-dire entre la discussion qu'il y a sur le fait de renforcer l'enseignement de l'arabe et même plus généralement des langues vivantes. Quelle est la traduction concrète de tout ça ? Aujourd'hui, pour l'instant, on ne voit pas. Dans la loi séparatisme qui est actuellement en discussion au Parlement, il n'y a pas trace du fait de renforcer l'enseignement de l'arabe. Il n'y a vraisemblablement pas de consignes qui ont été données au ministère de l'Éducation nationale. Donc la question maintenant, c'est est-ce qu'on arrive à passer des paroles aux actes, entre dire que c'est bien, ce qui est déjà une bonne chose par rapport à avant, et en faire quelque chose ? Il y a encore un pas à franchir, vraisemblablement.
Beaucoup de réactions, vous me l'avez dit, suite à la parution du livre, avec des lecteurs qui se sont emparés de la question. Qu'est-ce qu'on vous a dit et à propos de l'apprentissage de l'arabe, du fait de perdre cette langue maternelle, et également sur d'autres langues, comme on l'a évoqué au cours de cette émission, Nabil Hakim?
Depuis la sortie du livre, je reçois tous les jours des courriers de lectrices, de lecteurs, beaucoup d'arabophones, donc qui sont un peu dans une situation similaire à la mienne, qui viennent de familles qui viennent du Maghreb ou du Proche-Orient, c'est-à-dire qui ont un rapport à la langue arabe qui est contrarié. Et c'est d'ailleurs intéressant parce que c'est souvent des gens qui ont, entre grands guillemets, réussi dans la vie, c'est-à-dire qui ont des emplois bien vus socialement, qui sont profs à la fac, qui sont journalistes, qui sont dans des grandes entreprises, etc., mais qui ont toujours l'arabe dans un coin de leur tête et qui ont des enfants et qui, depuis des années, se posent cette question
question de la transmission. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai aussi reçu beaucoup de courriers de gens qui ne sont pas de famille arabophone, mais qui sont issus de l'immigration italienne, portugaise, espagnole, de familles juives séfarades aussi, où l'arabe a été très présent pendant des années, puisque ça a été la langue des juifs séfarades pendant des siècles, et où là aussi, il y a une forme de tabou par rapport à l'arabe. Et puis, dernier point qui est intéressant, aussi un certain nombre de courriers qui viennent de locuteurs de langues régionales, des Bretons, des Occitans, des Alsaciens. J'ai reçu une lettre d'une Alsacienne de 80 ans qui parlait de son rapport à la langue, une lettre assez touchante, mais le problème c'est qu'elle ne m'a pas laissé ses coordonnées, donc si jamais elle m'entend ici, elle peut me réécrire avec ses coordonnées. Mais plus sérieusement, ça montre aussi que le sujet de la langue, évidemment, il est exacerbé, comme on l'a dit pendant l'émission, sur la question de la langue arabe. Mais en fait, c'est un sujet qui est beaucoup plus profond sur l'identité française et sur la manière dont on laisse exister ensemble d'autres langues sur le territoire français et d'autres langues qui sont en fait des langues de notre histoire commune, de notre richesse commune, les langues régionales, les créoles des Antilles ou de la Réunion, les langues d'immigration et l'arabe bien sûr.
Cet ouvrage est très personnel et on suit beaucoup votre cheminement. Alors moi, j'ai vraiment envie de savoir si vous avez encore avancé et si vous trouvez aussi intérieurement des réponses, une nouvelle envie, non pas d'apprendre l'arabe, parce que ça, vous l'avez, mais une nouvelle motivation pour le faire vraiment.
Je pense que ce que ce livre m'a permis de faire pour moi, et j'espère que c'est aussi un support pour d'autres pour le faire, c'est aussi d'essayer de mettre l'arabe à sa juste place dans ma vie. C'est-à-dire comprendre que le plurilinguisme, le bilinguisme, c'est pas parler toutes les langues parfaitement, toutes les langues de la même manière et les utiliser exactement de la même façon dans la vie. Et moi, je crois que d'une certaine manière, là où j'ai progressé, c'est que j'ai compris que mon arabe, même cassé, même mon arabe mal parlé, pas parfait, mon arabe un peu enfantin, ben c'est quand même une langue que je parle. Et c'est quand même ma langue, et c'est quand même une langue que je peux parler en France, et dont je peux parler en France. La preuve, on en parle sur France Culture. Et ça, je crois que c'est vraiment un cap qui est important, c'est-à-dire le premier obstacle à l'apprentissage de l'arabe en France, il est dans la tête des enfants d'immigrés, sur le fait que cette langue n'a pas de valeur, qu'on la parle pas comme il faut, qu'on a honte de mal la parler, qu'on a honte de la parler. Et en fait, c'est aussi ce cap-là, je pense, qu'il faut arriver à dépasser. Et pour moi, en tout cas, l'écriture de ce livre a été un des outils pour le faire.
L'arabe pour tous est publié au Seuil et c'est une très bonne idée de cadeau pour Noël ou n'importe quel moment. Tout comme le livre d'Aurore Vincenti qui est un peu plus ancien mais dont on note qu'il avait été préfacé par Alain Ray et publié aux éditions Le Robert. Merci infiniment à mes invités, merci à l'équipe d'Être et Savoir, Avril Ventura à la programmation au site, Philippe Baudouin à la réalisation, Anthony Thomasson était à la prise de son ce soir. Exceptionnellement, pas d'émission la semaine prochaine, mais une programmation spéciale. Vous pouvez écouter tous les numéros d'Être et Savoir en podcast sur l'appli Radio France ou le site de France Culture. Et nous, on se retrouve en direct à 21h le 4 janvier 2021, si vous le voulez bien. Bonne fête à tous.
سكن يوتر حياتي.